Eugénie Pradez, La Grande Titine. On n'attendait plus pour partir que la Grande Titine. Toute la noce, massée dans une cour d'hôtel mal pavée où picoraient entre les pierres des poules noires, jaunes et blanches, guettait l'éternel retardataire, dont on voyait la longue silhouette approcher sans hâte aucune. La veille déjà, au moment de se rendre à la mairie, il avait fallu se morfondre une bonne demi-heure à piétiner sur place avant de la voir poindre à l'horizon et avancer de son allure majestueuse jusqu'à la grande place, où, placardé d'affiches, dégradé et sale, le lourd bâtiment où se louent les destinées formait un gros bloc jaune, menaçant. On était au mois de juillet, et la mariée et sa sœur, toutes deux vêtues de robes de velours, l'une bleue avec des dentelles au cou et aux manches, l'autre verte, sans rien de blanc nulle part, suffoquaient sous l'ardent soleil de midi. Sanglé dans son uniforme de sergent de ville, en tenue de gala, le marié avait très bon air. Son képi à la main, il en éventait sa femme, avec un sourire bête et un regard luisant de propriétaire satisfait. Il avait été soldat en Afrique, dans le temps, et le soleil qui lui tombait d'aplomb sur le front ne l'incommodait pas le moins du monde. Au contraire, il s'évertuait à répéter que ce n'était rien, ce soleil, qu'il en avait vu d'autres en Afrique. Il fallait être une poule mouillée pour se plaindre de ce soleil-là. « Il fait tout de même chaud, » disait la mariée en s'épongeant le front avec précaution, sans déplier son mouchoir. « Ce n'est pas permis de faire aussi chaud. » Et comme la grande titine arrivait, on se porta à sa rencontre. Elle salua tout le monde, du haut de la tête, sans se départir, même pour la mariée, de ses façons de reine. Elle avait le visage osseux, la bouche charnue et les dents solides. Aucune grâce nulle part, ni dans les traits, ni dans les mouvements. Et pourtant, un certain charme incompréhensible sortait, on ne sait d'où, de cette longue silhouette sèche qu'on avait surnommée la Grande Titine. Dès qu'elle eut salué tout le monde, on se mit en route. Depuis le grand matin, personne n'avait mangé, et le verre de vin pris à l'auberge, en attendant la grande titine, avait stimulé les appétits. Il ferait bon s'asseoir enfin à l'ombre des tonnelles, près du fleuve paresseux où le repas de noces attendait. Mordu par le brûlant soleil, le cortège se hâtait, brassant l'épaisse poussière blanche à grands pas pressés. Et d'abord, personne ne parla. La présence de la grande titine commençait toujours par jeter un froid. Il fallait s'habituer à ses airs, se répéter que si elle était là, c'est qu'elle l'avait bien voulu, que s'il y avait de la raideur dans ses manières, cela tenait surtout à sa charpente anguleuse, et enfin qu'elle n'était après tout qu'une ancienne femme de chambre, qu'un coup de fortune, comme il peut en arriver à tout le monde, avait tiré de la servitude. Titine, de son vrai nom Valentine Lyonard, avait eu en effet un bonheur extraordinaire, une de ces chances inouïes dont on doute longtemps tout éveillé, tant elles sont anormales au cours des destinées humaines, ou du berceau à la tombe, tant et tant de déceptions, de crève-cœurs et de gros chagrins cuisants font la chaîne, la main dans la main. La maîtresse, au service de qui elle était entrée toute jeune, en qualité de première femme de chambre, l'avait gardée 15 années consécutives, sans augmenter d'un liard le salaire, plutôt maigre, qu'elle lui servait ponctuellement le premier du mois. Seulement, presque toujours, en lui glissant son gage dans la main, elle lui disait « Vous méritez davantage, ma bonne titine, mais vous ne perdrez rien pour attendre. » Sans savoir bien quoi, Titine avait attendu en paix, voyant sans trop d'impatience les années se succéder, commencer et finir sans lui apporter la surprise promise. Elle avait appris à aimer sa maîtresse, malgré sa parcimonie tenace à son égard, et les jours monotones qu'elle passait à la servir et à la soigner avaient été dorés par ce rayonnement d'affection qui embellit les conditions les plus humbles et transfigure les plus dépouillées. Elle était tout entière à son affaire, sans regarder ni en avant ni en arrière, accumulant patiemment à la caisse d'épargne ce qu'elle pouvait épargner chaque mois sur son gage. Une misère, quelques sous, car sa mise toujours irréprochable et une rente mensuelle envoyée à sa mère avalaient plus des trois quarts de sa recette. Les choses en étaient là quand sa maîtresse, atteinte depuis longtemps d'une maladie de cœur, mourut brusquement au seuil de la cinquantaine, sans avoir même eu le temps de communiquer à la grande Titine la surprise qu'elle lui avait ménagée. Celle-ci, du reste, absorbée par son chagrin, ne songea pas un instant à se sentir lésée. Elle réalisa à la hâte ses petites économies et partit pour son village, où, avant de reprendre un service, elle voulait revoir sa mère et effacer un peu les habitudes que 15 années d'existence avaient imprimées à son esprit régulier, aussi dépourvu de souplesse que l'ossature sèche de ses membres. Ce fut au milieu de cette halte entre deux services qu'elle reçut l'avis stupéfiant que sa maîtresse avait assuré son avenir si largement qu'elle pouvait non seulement entretenir sa mère, mais se dispenser elle-même de servir. À partir de ce moment, tout ce qu'elle entreprenait lui était devenu facile. Les choses et les gens avaient pris une figure qu'elle ne leur avait jamais vue. Elle s'en était longtemps sincèrement étonnée, jusqu'à ce qu'un jour, l'idée bizarre lui vint de se demander ce qu'elle éprouverait si sa maîtresse revenait tout à coup à la vie. Ce qu'elle découvrit au fond de son cœur l'effraya. Un contact journalier, au sortir de l'enfance, avec une nature d'élite, une vie faite de devoirs sédentaires et sérieux, avait développé son intelligence de paysanne et stimulé une sensibilité de conscience presque maladive. Au-dedans comme au-dehors, tout ce qui n'était pas net, droit, juste et convenable lui faisait horreur. La fausseté et les compromis lui étaient aussi étrangers que l'idée du vol et du meurtre. La découverte qu'elle fit au fond de son cœur lui causa donc une cuisante surprise et un profond chagrin. Elle ne réussit pas à se tromper un instant sur ses sentiments. Oui, en vérité, plutôt que de se voir enlever sa part d'héritage, elle préférait que sa maîtresse, qu'elle avait tant aimée, fût morte. Elle constata tout de suite la présence de ses mauvais instincts, mais elle les combattit si énergiquement qu'il y eut dans sa vie nouvelle des moments où vraiment elle se serait dépouillée sans effort de son aisance pour reprendre sa servitude, pourvu que cela pût se faire tout de suite, sans lui laisser le temps de tout peser et de tout considérer. D'autres fois, par contre, elle se sentait si cramponnée aux choses nouvelles et si étrangère au passé qu'elle se faisait horreur. Et peu à peu, cette horreur qui avait éclairé et assagi son jugement sur les autres hommes avait en même temps fait naître en elle un besoin de se purifier par quelque sacrifice volontaire. Cette idée de se purifier par une action méritoire la hantait depuis longtemps, et c'était pour lui donner enfin une forme définie, pétrie d'une substance solide, qu'elle avait accepté de figurer au cortège et au banquet de noces de sa cousine Olympe, une cousine à la mode de Bretagne, autrefois coquette et légère, mais qui s'était assez assagie pendant les dernières années pour que Titine, possédée par son idée de purification, renouât sans trop d'efforts d'anciennes relations de famille. Droite et raide, à côté du compagnon qu'on lui avait donné, effleurant à peine du bout de ses doigts osseux la manche de drap marron de son cavalier, elle marchait absorbée dans son rêve, le trouvant tout à coup moins aisé à réaliser qu'elle ne se l'était figuré. Elle découvrait avec chagrin que, pour mener à bien sa bonne action, elle avait besoin du concours de 3 personnes. que son offre, quelle qu'en fût l'issue, éveillerait une vive surprise, pour n'aboutir peut-être, en fin de compte, qu'à désobliger Olympe et son sergent. Rien ne lui permettait de supposer, en effet, que le sergent vit de mauvais œil la petite fille qu'Olympe lui apportait en cadeau de noces. C'était un homme un peu court d'esprit, que la grande Titine, gâtée par son long tête-à-tête avec une femme d'une autre condition, avait jugé, dès la première rencontre, sans talent pour la causerie, et bâti tout exprès pour attendre les mauvais drôles au coin des rues, comme le chat aplati sur le ventre guette les souris au bord de leur trou. Dans d'autres circonstances, elle n'aurait pas compris qu'Olympe se contenta à si bon marché, et elle le lui avait dit carrément, avec la liberté de langage, l'audace de franchise, que lui donnait son indépendance pécuniaire, et un peu aussi la conscience vague d'être supérieure en intelligence, non seulement à Olympe et à son sergent, mais à la plupart de ceux qu'elle fréquentait depuis son retour. Elle avait donc exprimé son opinion sur le sergent, sans réticence aucune, considérant que les droits de la vérité sont partout les premiers, mais souhaitant tout bas qu'Olympe restât obstinée dans sa volonté d'avoir son sergent. Ce qui était arrivé, en effet, non par intérêt ni calcul, mais parce qu'Olympe s'était attachée pour tout de bon à cet homme que sa cousine jugeait stupide. Titine ne s'était pas étonnée outre mesure de cet attachement bizarre. Elle connaissait l'amour et sa puissance, l'ayant éprouvé une fois en sa vie lorsqu'elle était en service en ville. Toute jeune, confiante et inexpérimentée, grisée par la sève de ses 20 ans, elle avait aimé un beau garçon, à la tête noire et bouclée, serrurier de son état, qu'il avait courtisé 2 ans de suite, sans rougir, tandis qu'il possédait de par l'état civil une femme, si bien à lui qu'elle augmentait chaque année sa famille d'une nouvelle unité. La découverte d'une si noire vilenie avait guéri du coup la grande Titine de son amour. Mais l'humiliante expérience lui était restée comme un paquet indigeste sur le cœur, et elle en avait conçu une incurable défiance vis-à-vis des hommes. Tout en acceptant leurs égards et souriant de leur flatterie, elle faisait semblant de ne pas comprendre leurs intentions, gardait pour elle sa petite fortune et se plaisait dans un rôle spécial qui semblait fait exprès pour elle. Cela la flattait de voir la gêne que produisait partout sa présence. Pendant tout un grand quart d'heure, ce jour-là, elle jouit de cette impression, tout en suivant des yeux la petite Louise, qui, seule parfaitement à son aise, gambadait le long du cortège en soulevant pour s'amuser des tourbillons de brûlante poussière. « Allons, allons !» dit-elle enfin en saisissant au passage la petite fille par le bras. « Fini ! Ce n'est pas joli ce que tu fais ! On en avale assez sans toi de poussière !» L'enfant, une fillette de 9 ans à peine, la regarda un moment très étonnée. Puis, sans souffler mot, elle s'échappa et alla prendre la main de sa mère. Tout de suite, la grande Titine se repentit de son mouvement d'humeur. Ce n'était pas ainsi qu'il fallait apprivoiser cette petite, qui évidemment était une gâtée, à qui sa mère passait toutes ses fantaisies. Elle la rappela plusieurs fois, mais en vain. Bien qu'Olympe lui parlât longtemps à l'oreille et que le sergent lui-même s'en mêla, la petite Louise ne bougea pas. Titine se tourna pour la première fois vers son cavalier. « Ça fait mal, dit-elle, de voir comme on gâte les enfants de nos jours. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui commandent. » Et secouant de sa main droite les plis pleins de poussière de sa robe gris-perle, sans y prendre garde, elle enfonça sa main gauche une ligne plus avant sur le bras de son compagnon. Celui-ci, aussitôt, se sentit enhardi. Entre ceux qui recherchaient la grande Titine, il était le plus empressé, le seul aussi avec qui elle éprouvât un certain plaisir à causer. Elle lui trouvait non seulement des idées, ce qui manquait à la plupart des autres, mais aussi des manières moins frustes. il avait un magasin d'horlogerie qui marchait bien, une figure avenante, et bien qu'il traînât légèrement la jambe gauche, une tournure de monsieur. « C'est bien vrai ce que vous dites là !» appuya-t-il en pressant légèrement le bras de sa compagne, comme pour souligner son affirmation. « Mais voilà ce qu'il y a, c'est que ceux qui pourraient bien élever des enfants n'en ont pas !» Dès qu'on entendit la conversation se mettre en train entre la grande Titine et l'horloger, il y eut tout le long du cortège un frisson de détente. Les jeunes, qui marchaient derrière, commencèrent à gazouiller en sourdine, comme des canaris qui essaient leur voix. Et les plus vieux échangèrent des observations sur la sécheresse et sur la possibilité d'un orage avant la nuit. La sœur de la mariée, à qui son cavalier, un blond à la barbe maigre et rousse, communiquait cette inquiétude, ramassa vivement sur son bras sa robe de velours vert et la tint désormais à l'abri de tout contact avec le sol, tout en levant de temps en temps vers l'azur cru du ciel des yeux inquiets, de grands yeux châtains, toujours prêts à larmoyer. On ne peut jamais être sûr d'une heure de paix en ce monde, dit-elle avec un soupir. Le chagrin nous court partout sur les talons. Et sentant l'alarme rester au coin de son œil depuis les émotions de la cérémonie nuptiale à l'église, s'amasser et menacer de tomber, elle la chassa du revers de son gant de fil. Elle était habituée à être sans cesse raillée au sujet de ses larmes, toujours prêtes à jaillir, et elle les retenait le plus qu'elle pouvait. De temps en temps, à la tête du cortège, plaintive, la voix de la mariée s'élevait, se lamentant de la chaleur, tandis que le sergent la plaisantait, persistant à la tenir par la taille et à lui souffler des mots dans les cheveux à travers le tulle de son voile. Il y eut un ouf de délivrance quand on aperçut enfin les tonnelles ombragées, où, sous l'épais rideau de feuillage, le couvert était mis. Seule la grande Titine et son cavalier parurent surpris et presque désappointés de se trouver déjà au but. Ils s'attardèrent un moment à causer au bord du fleuve, regardant l'eau filer toute plate entre des rives herbeuses. On sentait bon la verdure dans ce coin humide, et aussi le foin fraîchement coupé, qui, éparpillé dans les prairies de l'autre côté de l'eau, séchait au soleil. « Ainsi, dit la grande Titine, c'est bien entendu. » « C'est vous qui ferez la proposition. »« C'est entendu, » dit l'horloger simplement. Et il considéra avec complaisance le long buste sec de la grande Titine penché au-dessus de la balustrade de bois courant le long du fleuve devant l'auberge. Jamais encore Titine ne l'avait traité avec autant de bienveillance. Elle lui semblait plus désirable que jamais avec sa robe gris-perle, sa conversation choisie et les belles idées généreuses qui germaient sous son crâne osseux. Il la préférait infiniment à toutes les jeunesses de la noce qui le lorgnaient pourtant avec convoitise, irritée de voir, comme toujours, la grande Titine accaparer le plus élégant et le mieux emplumé des convives. En dépit de sa jambe traînante, l'horloger s'entendait à plaire aux femmes. Mais dès que Titine était là, il ne s'occupait plus que d'elle. On se demande, dit la grande Titine, les yeux rêveurs fixés sur le fleuve, d'où vient toute cette eau? Ça coule, et ce n'est jamais fini. Il y a beaucoup de choses drôles dans le monde auxquelles on ne pense jamais, dit l'horloger après un silence. On n'a pas le temps de penser, nous autres. Mais il m'arrive quelquefois de lire des choses extraordinaires, et vous allez rire, mademoiselle Titine. Mais cela me rend triste. Je ne sais pas pourquoi, cela me rend tout à fait triste. C'est comme une inquiétude qui me court dans le sang. Il ajouta, sans laisser à Titine le temps de répondre, et sans se soucier d'adoucir la transition. Ce qu'il me faudrait à moi, c'est une bonne femme, avec qui je pourrais causer le soir sans m'embêter. Titine approuva de la tête, sans exprimer autrement sa sympathie, Puis elle dit brusquement « C'est effrayant, les mauvaises choses qui se passent au fond de notre cœur. Vrai, c'est effrayant. » Et comme l'horloger abasourdi restait muet, elle sentit plus que jamais le besoin de se purifier de son ingratitude vis-à-vis de sa maîtresse, car plus que jamais, ce jour-là, il lui aurait été désagréable de reprendre son ancienne vie. Sans s'apercevoir aucunement du silence confus de son interlocuteur, elle poursuivit. « Ainsi, c'est bien entendu, n'est-ce pas ?» L'horloger n'eut pas le loisir de répondre. On les appelait pour la soupe. Ils allèrent s'asseoir à la longue table où le reste des invités était déjà installé. Tout le monde se tut dès que la grande Titine eut pris sa place, et un froid régna de nouveau pendant qu'on dégustait le bouillon. Seule la petite Louise jacassait, sans perdre une minute et sans se soucier le moins du monde des signes de tête ni des sourires que la grande Titine lui adressait de temps en temps. À la fenêtre de l'auberge, au premier étage, une femme en jaquette de coton bleu passait et repassait, tenant étroitement serré contre sa poitrine un poupon, hâve et maigre, que de temps en temps, très légèrement, elle effleurait du bout des lèvres. Tout à coup, sortant de son apathie, l'enfant malade se mit à crier, doucement d'abord, puis toujours plus fort. Avec toute l'énergie de petits poumons intacts, il poussa bientôt des clameurs stridentes. Tous les convives avaient eu le même sursaut, et toutes les têtes se tournèrent à la fois du côté de la fenêtre. Celle-ci se ferma aussitôt sans bruit, mais à travers la mince cloison de verre, la plainte de l'enfant s'entendit toujours, et la grande Titine murmura « Tant de petits êtres qui viennent au monde pour souffrir, ça fait mal, vrai, ça fait mal !» Et elle attacha ses yeux sur la petite Louise, comme si elle voyait un gros orage s'amasser au-dessus de sa tête. Mais la petite fille regardait, comme tout le monde, du côté de la fenêtre, et la commisération dont elle était l'objet ne fut saisie que par l'horloger. L'aubergiste, qui s'empressait autour de la table, voyant que l'enfant continuait à crier, et en avait, selon toute apparence, pour longtemps, appela, la tête en l'air. « Hé, Lina, hé !» La femme, tenant entre ses bras l'enfant tout violet de colère ou de douleur, s'approcha de la fenêtre, montrant son visage anxieux et sa tête échevelée. L'aubergiste lui fit aussitôt, du bras droit, d'énergiques signes de s'éloigner. La mère et l'enfant disparurent. Mais ils avaient laissé derrière eux l'impression de l'éternelle tragédie de l'existence, où la joie et la douleur se suivent de si près, et si souvent naissent l'une de l'autre. Sur ces êtres assemblés pour se réjouir, un frisson passa. Et longtemps, s'échappant d'un fond d'expériences lointaines ou rapprochées, ou bien encore de cette inquiétude permanente tapie dans quelque coin du cœur le plus léger, une tristesse pesa sur les vieux et sur les jeunes. Tandis que la sœur de la mariée, les deux coudes sur la table, pleurait dans son mouchoir sans pouvoir se remettre. Il y avait 8 ans, elle avait perdu un petit garçon en bas âge, et ses souvenirs s'étaient réveillés cuisants. « Ce que vous en avez d'eau dans le cerveau !» lui dit enfin le sergent en guise d'encouragement. Et cette parole bien intentionnée dissipa le malaise. Titine pinça ses lèvres charnues pour dissimuler l'irritation que lui causait la bêtise du sergent, mais elle ne dit rien, et, le vin aidant, sa présence finit par perdre son action pétrifiante. On oublia aussi le petit être souffreteux en lutte inconsciente avec son mal. On oublia les dessous des jours de fête et tout leur lendemain. Le joyeux tapage commença enfin pour tout de bon. On était au dessert lorsque l'horloger se leva, frappa sur son verre et réclama un moment d'attention. La grande Titine regarda aussitôt la nappe en piquant du bout de ses doigts noueux des miettes de pain semées autour de son assiette. Elle avait légèrement pâli, comme si elle pressentait que tous les regards allaient se porter sur elle et qu'elle eût préféré à présent faire sa bonne action d'une façon moins éclatante. Mais c'était trop tard pour se raviser, car l'horloger avait déjà commencé sa harangue, et, après un court préambule, il lançait la proposition de Titine. La grande Titine, que tout le monde estimait et respectait, avait eu une de ces idées généreuses telles que seules les grandes âmes en quête perpétuelle d'actions utiles aux autres en voient naître. Elle proposait aux mariés de leur prendre la petite Louise, d'en faire sa fille, de l'élever dans la sainte religion et dans les bonnes mœurs, de se charger de toutes les dépenses de son entretien et de la rendre heureuse et sage selon ses moyens. Il semblait à la grande Titine que les époux qui allaient fonder une nouvelle famille se sentiraient plus à l'aise seuls vis-à-vis l'un de l'autre. Ils n'auraient d'ailleurs aucune reconnaissance à avoir envers elle, car ce qu'elle demandait, elle le désirait du fond du cœur, pour des raisons qui lui étaient particulières. L'horloger termina son discours en proposant la santé des époux, de la grande Titine et de la petite Louise. Un cliquetis de verre s'ensuivit, un vacarme de cris et de rires. Puis autour de la longue table, un étrange silence s'établit. Seule la petite Louise harcelait sa mère de questions. Elle la tirait par sa manche et les deux petits pieds inquiets piétinaient le velours bleu de la robe. « Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'il a dit le boiteux ? Qu'est-ce qu'elle veut la femme ?» Mais la mère ne répondait rien. Elle se demandait, avec une inquiétude poignante, s'il lui serait possible de donner sa petite Louise. Et elle se répondait que non. Elle se répondait invariablement que non. Et elle regardait devant elle sans oser tourner la tête du côté du sergent pour interroger son visage. Dans les branches d'un tilleul, un oiseau sifflait deux notes aiguës, toujours les mêmes. Et il semblait à Olympe que cet oiseau disait aussi « Non, non ». La grande Titine, les yeux baissés, attendait qu'on répondît à sa proposition. Maintenant que la chose était faite, elle était contente qu'elle fût faite, et son désir de purification intérieure lui semblait presque réalisé. Autant qu'elle avait aimé sa maîtresse, autant elle aimerait cette petite fille si on la lui donnait. Elle avait appris à trop bien connaître les rouages de la vie pour supposer un instant qu'on pût rejeter une offre comme la sienne. On lui donnerait l'enfant, elle n'en doutait pas. Seulement, il fallait laisser à Olympe le loisir de se reconnaître et au sergent le temps de comprendre. Celui-ci se leva enfin et il promena longtemps autour de la table ses gros yeux luisants et bêtes sans rien dire. Il venait d'interroger Olympe à voix basse et tandis que l'oiseau continuait à crier éperdument « Non, non !» elle lui avait répondu sans le regarder « C'est comme tu voudras. » Il se gratta longtemps derrière le crâne d'un air préoccupé. Il ne savait pas pourquoi les mots ne voulaient pas s'arranger dans sa tête, et il fut sur le point de se rasseoir, tant il avait chaud à la figure. Cependant, avec ses boutons de métal brillants, ses parements d'argent et son stage en Afrique, il sentait confusément que cela ne convenait pas de se rasseoir bêtement après s'être levé. Il se tint sur un pied, et puis sur l'autre, et enfin, d'une voix haute et brève de commandement militaire, il lança son opinion. « C'est pour dire à Mademoiselle Titine toute notre reconnaissance pour sa bonne idée. Mais quant à garder l'enfant, nous gardons l'enfant. » Et il se rassit lourdement, en adressant à sa femme un sourire content qui semblait dire « Hein ? Un, deux. » « Trois, il n'y a pas besoin de tant de paroles pour dire ce qu'on pense. » La bouche entrouverte, la grande Titine regardait, stupéfaite, l'orateur. Elle continua à le regarder longtemps. Jamais elle n'aurait soupçonné qu'il y eût place pour de la délicatesse et de la générosité sous ce crâne étroit. Et son opinion sur le sergent subissait une transformation qui s'étendait à toute son espèce. Il y avait donc au monde des hommes qui, au lieu de dissimuler des vilenies, cachaient ce qu'ils avaient de bon. En vérité, il y avait des hommes qui ne trompaient pas. Cela l'étonnait beaucoup que celui-là, entre autres, le dernier des derniers à ses yeux, eût su trouver des paroles nettes et pourtant inoffensives à la fois pour elle et pour Olympe. Cette surprise fut pendant quelques minutes une distraction à la perte de son rêve. Mais très vite, elle réalisa dans toute sa plénitude sa déception. Elle sentit avec amertume son ardent désir de purification s'éloigner d'elle, et le souvenir de sa maîtresse la harcelait de nouveau comme un remords. L'incident inattendu, provoqué par sa proposition, avait brusquement coupé le fil des causeries. Après quelques vains efforts pour le renouer, le repas étant fini, on se leva de table et l'on quitta la tonnelle. Titine se leva comme les autres, et elle alla de nouveau s'accouder à regarder le fleuve. L'eau s'en allait toujours, sans une ride, suivant son chemin monotone d'une allure lente et paresseuse. Et cela l'attristait de la regarder, en pensant que tout à l'heure, elle avait le cœur léger, tandis qu'à présent, tout était à recommencer. L'horloger l'avait suivi au bord de l'eau, mais il restait silencieux à côté d'elle, se bornant à signaler sa présence par de petits cailloux qu'il lançait dans l'eau de temps en temps. Il comprenait qu'elle était désappointée, un peu humiliée même. Il fallait lui laisser le temps de se remettre. Au fond de la cour, tout à coup, on entendit grincer un violon. Un des invités avait apporté son instrument et il raclait une valse à l'ombre du tilleul. Toute la jeunesse, éparpillée ici et là, accourut aussitôt. Et en passant à côté de Titine, toujours en compagnie de l'horloger, quelqu'un cria « Nous, les jeunes, nous danserons !» La grande Titine pinça ses lèvres épaisses. La parole était malveillante pour elle. Elle l'était aussi pour l'horloger, que sa jambe traînante rendait maladroit à la danse. Ils restèrent à leur place au bord de l'eau, la regardant couler, couler, sans jamais s'arrêter. Et Titine, que sa déception inclinait à la tristesse, pensait que les années aussi coulaient, coulaient sans jamais se reposer. D'autres dansaient, tandis que, sans y penser, elle avait cessé d'être jeune. Elle songeait encore qu'il était bien inutile de lutter avec ses mauvais instincts, puisque les hommes étaient incapables de comprendre un effort généreux, que chacun s'en allait par son petit chemin, les yeux à terre, sans se soucier le moins du monde du trouble où se débattaient les autres. Si seulement elle pouvait trouver un moyen de tranquilliser sa conscience au sujet de sa maîtresse, elle aussi laisserait passer les jours sans se soucier de rien, comme elle le voyait faire à tout le monde. Depuis un bon moment, l'horloger avait cessé de lancer ses pierres dans l'eau. Il savait exactement l'espace de temps que contient une minute, et le silence de la grande Titine commençait à lui sembler trop long. Il jugeait qu'elle avait eu le loisir de se remettre à fond de son mécompte. À vrai dire, malgré sa sympathie pour Titine et le respect que lui inspiraient en général ses idées, il n'avait compris qu'à moitié sa fantaisie de s'annexer la petite Louise, une petite peste, bruyante et mal dressée. Dans le cas où la grande Titine se déciderait un jour au mariage, la présence d'un enfant étranger amènerait infailliblement des complications et du tirage. Ce serait tellement plus simple, si seulement Titine voulait mettre sa grande intelligence à bien peser les choses. Ce serait tellement plus simple d'avoir des enfants à soi, qu'on élèverait à sa façon. Non seulement l'horloger savait le temps précis que contient une minute, mais il sentait très nettement ce qui les distingue les unes des autres. Celle qui allait naître avait une importance toute particulière. « Ce qu'il vous faudrait, mademoiselle Titine, » murmura-t-il enfin en recommençant à lancer des pierres dans l'eau avec énergie. « Ce serait, comment dirais-je, ce serait une famille à vous qui vous ferait société. » Et si vous me permettez de dire tout ce que je pense, ce seraient des enfants à vous que vous élèveriez avec plus de plaisir que ceux des autres. La grande Titine tourna brusquement son buste anguleux du côté de l'horloger et elle le dévisagea un long moment sans parler. Il n'était pas marié en cachette, lui. Il y avait des années et puis des années qu'elle le connaissait. Elle l'avait toujours trouvé de bons conseils, prudent et avisé, et il devait y avoir du vrai dans ce qu'il disait, car ses paroles avaient trouvé, au fond de son cœur, un écho tout près. En effet, pourquoi fallait-il absolument que la générosité de sa maîtresse allât au bien-être d'un enfant étranger? Pourquoi? Vous avez peut-être raison, dit-elle en laissant voir à travers les lèvres charnues la ligne blanche de ses dents. On ne sait jamais bien voir les choses comme elles sont. Il y a tant de vilenie en nous et autour de nous que cela empêche de bien voir ce qu'il faut faire. Quand on le voit, c'est trop tard. Comment trop tard ? Se récria l'horloger. Et il se tut un moment. Il avait une si forte inquiétude de se méprendre sur la bienveillance de la grande Titine que cela lui coupait l'haleine. Il la contempla quelques secondes, longue et osseuse, telle qu'elle était, pas belle, mais possédant pour lui ce charme sans nom qui pénètre un homme jusqu'au moelle. « Si vous vouliez, mademoiselle Titine, » dit-il enfin la voix rauque, « à partir d'aujourd'hui, nous compterions les heures et les minutes sur la même montre, et je vous jure qu'elle marcherait bien. » La grande Titine, penchée sur l'eau, resta un long moment silencieuse. Elle ne voyait plus couler le fleuve, elle ne sentait plus glisser le temps. Il lui semblait que la vie du dedans et du dehors avait fait halte simultanément pour marquer dans l'éternité une minute unique. Bien qu'elle sentît son cœur sauter dans sa poitrine d'une façon désordonnée, elle dit enfin, sans se départir de ce ton mesuré et bienséant qui faisait si souvent de sa présence un trouble fête. Quel long chemin nos idées peuvent pourtant faire en une courte journée. Ce matin, je n'aurais pas cru possible ce qui nous arrive. Et à présent, il me semble que tout cela existe depuis toujours.
Je ne suis pas de votre avis, dit l'horloger, sans chercher à dissimuler le trémolo de sa voix. Moi, je me sens tout renouvelé.
Et tandis que le violon continuait à grincer sous le tilleul, et que la verte jeunesse tournait en rond sur l'herbe d'une maigre pelouse, la grande Titine commença son œuvre de purification. Elle la trouvait plus belle que toutes celles que son imagination aux abois lui avait proposées. Le dévouement latent qui tourmentait son âme servirait à embellir la vie d'un homme. L'argent irait à ses enfants, et sa part à elle serait le bonheur que depuis longtemps, sans se l'avouer, elle rêvait tout bas. Et comme cette idée de purification qui hantait sa pensée dépassait un peu la qualité de son esprit, elle ne s'avisa jamais que sa combinaison n'était qu'un compromis. Elle fut heureuse de son lot, sans arrière-pensée.